Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir, voici la voix de l'Indonésie. Présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés, entre autres. Indonésie condamne fermement l'interdiction imposée par Israël aux opérations de l'UNRWA. Indonésie a soulevé la question de la réduction des émissions et du commerce du carbone à la COP29. Banyuwangi finalise le plan de vol pour la route Chine-Banyuwangi. Ministres indonésiens sont prêts à utiliser la voiture de Maung selon les ordres du président Prabowo. KBUMN et le ministère des Transports se coordonnent pour réduire les coûts logistiques dans le secteur des transports. Le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Éducation et de la Technologie collaborent pour accélérer l'autosuffisance alimentaire. Et Jakarta Film Week soutient des cinéastes compétitifs au niveau international. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. L'Indonésie condamne fermement la décision d'Israël d'interdire les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNRWA, qui a entraîné l'arrêt du travail de l'agence en Cisjordanie, à Jérusalem orientale et dans la bande de Gaza, selon une déclaration écrite du ministère indonésien des Affaires étrangères reçue à Jakarta. L'interdiction est inacceptable compte tenu du rôle clé de l'UNRWA dans la fourniture de services d'éducation, de services de santé et d'assistance, et d'assistant à des millions de réfugiés palestiniens. Le ministère indonésien des Affaires étrangères, via ses réseaux sociaux, a déclaré mardi que cette décision viole clairement et c'est contraire à la Charte des Nations Unies et à la Convention de 1946 concernant l'immunité des institutions de l'ONU. Le ministère des Affaires étrangères a reconnu la position irremplaçable de l'UNRWA dans l'aide aux réfugiés palestiniens. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a souligné l'engagement de l'Indonésie à continuer de soutenir l'Agence des Nations Unies dans l'accomplissement de son mandat. En outre, l'Indonésie exhorte la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à mobiliser tous les efforts pour mettre fin à l'agression et à l'oppression israélienne dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Le ministre de l'Environnement, Hanif Faisal Nourofik, a déclaré que la présentation des réalisations en matière de réduction des émissions ainsi que la mise en œuvre du commerce du carbone, qui est actuellement en cours d'élaboration est une question diplomatique soulevée par l'Indonésie lors de la 29e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP29, rencontrée par les médias après la réunion préparatoire de la COP29 à Jakarta mardi. Le ministre Hanif a déclaré que plusieurs questions diplomatiques seraient évoquées et expliquées par la délégation indonésienne, conformément aux instructions du président de la délégation indonésienne à la COP29 et envoyé spécial pour énergie et environnement Hashim S. Joyo Hadikusumo. Hanif a expliqué que l'Indonésie avait fait part de ses réalisations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, et qu'elle serait réaffirmée dans un discours à la COP29 qui se tiendra à Bakou en Azerbaïdjan en novembre 2024. Dans le même temps, il a assuré que la question du financement climatique continuerait également d'être défendue par l'Indonésie à la COP29, notamment après la COP28 aux Émirats arabes unis en 2023. Le gouvernement de la régence de Banyuwangi, Java Oriental, soutenu par le ministère du Tourisme, finalise un projet visant à ouvrir des vols sur la route Chine-Banyuwangi aux touristes en provenance de Chine. Le régent par intérim, Banyuwangi Sugira, dans sa déclaration à Banyuwangi mardi 29 octobre, a admis qu'il avait tenu une réunion avec une équipe du ministère du Tourisme et des représentants du Chandana Mandra Sakti SA et des sociétés fournissant des services aéronautiques. Selon Sugira, l'arrivée de touristes étrangers apporte des avantages économiques et a un impact sur le développement touristique régional. Il a ajouté que le ministère du Tourisme encourage le développement du tourisme international à Banyuwangi conformément au programme de connectivité touristique 3B Banyuwangi, Bali Occidental, Bali Nord. Le ministre indonésien des Forêts, Raja Juli Antoni, mardi 29 octobre, s'est déclaré prêt à utiliser la voiture officielle Maung, fabriquée par Pindad SA Persero, si le président Prabowo Subianto avait donné des instructions à ce sujet. Auparavant, le vice-ministre des Finances, Anggito Abimanyu, avait déclaré que le président Prabowo Subianto faciliterait les ministres et tous les fonctionnaires de l'échelon 1 de l'ère gouvernementale actuelle avec les voitures Maung fabriquées par Pindad SA Persero comme véhicules officiels. Selon Anggito, le président Prabowo souhaite que l'utilisation des voitures emportées comme véhicules officiels soit éliminée sous son mandat. Anggito a ajouté que la voiture Maung a été conçue par le professeur Sigit Puji Santosa de l'Institut de technologie de Bandung ITB, qui est également le directeur de Pindad SA, avec 70% d'utilisation de composants nationaux. Le ministère indonésien des entreprises d'État, BUMN, et le ministère des Transports ont discuté des efforts visant à réduire les coûts logistiques dans le secteur des transports afin de soutenir les programmes d'alimentation, d'énergie et d'autosuffisance en aval, qui sont les principaux programmes du gouvernement. Cette déclaration a été faite par le ministre des Affaires d'État, Eric Toyer, lorsqu'il a rencontré mardi le ministre des Transports, Dudi Purwa Gandhi, au bureau du ministère des Transports à Jakarta. Le ministre Eric Toyer a déclaré que jusqu'à présent, l'Indonésie avait réussi à réduire ses coûts logistiques de 13 à 14%, conformément à l'orientation du président Prabowo Subianto visant à soutenir les programmes alimentaires, énergétiques et d'autosuffisance. En aval, son parti continue de se coordonner avec le ministre des Transports afin que les coûts puissent à nouveau être réduits. Le ministère de l'Agriculture Kementan et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Science et de la Technologie Kemendik-Tisentek travaillent ensemble pour soutenir le programme d'autosuffisance alimentaire lancé par le président Prabowo Subianto. Le ministre indonésien de l'Agriculture Mentan, Andi Amran Sulaiman, a déclaré mardi 29 octobre que cette collaboration impliquerait toutes les universités indonésiennes pour présenter l'innovation et la technologie capable d'atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 4 ans. Pour la collaboration initiale, selon Amran, le ministère de l'Agriculture a signé un protocole d'accord avec 5 universités d'État, à savoir l'Institut agricole de Bogor, IPB, l'Université Gadjah Mada, UGM, l'Université Hasanuddin Unhas, l'Université de Sumatra du Nord, USU, et l'Université Syekh Kuala. Amran a déclaré que cette collaboration ne se limite pas seulement au développement des semences, mais couvre également divers secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Le ministre de la Culture, Menbud Fadlizon, a déclaré la Jakarta Film Week JFW 2024 est un événement visant à aider les cinéastes nationaux à avoir une compétitivité internationale. Fadlizon, dans un communiqué officiel mardi 29 octobre, a déclaré que la semaine du film de Jakarta, qui s'est clôturée dimanche 27 octobre, est un événement annuel qui en est à sa 4e année et présente divers films de qualité et constitue un espace de collaboration entre cinéastes locaux et internationaux. Fadlizon a souligné que la Jakarta Film Week n'est pas seulement un festival de cinéma, mais constitue un pilier important pour le développement du cinéma en Indonésie. Il a ajouté que le ministère de la Culture soutient le nouveau programme Jakarta Film Week Net, qui existe en parallèle en tant que forum pour encourager la croissance industrielle et renforcer l'écosystème cinématographique national. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui intitulée « Véhicules officiels fabriqués au pays pour les ministres » avec Maudry. Chargeur le vice-ministre indonésien des Finances, Anggito Abimanyu, lors d'un discours scientifique, lors de la réunion ouverte du Sénat, le pic du 15e anniversaire et l'Ustrum 3 de l'école professionnelle UGM, lundi 28 octobre, a déclaré que le président Prabowo Subianto avait demandé aux ministres et les responsables de l'échelon 1 ne doivent pas utiliser de voitures importées. Le président souhaite que la voiture soit une voiture fabriquée localement en Indonésie, comme la voiture Maung fabriquée par Pindad SA. La voiture de Maung est le résultat d'une conception du professeur Sigit Puji Santosa de l'Institut de technologie de Bandung, ITB. Cité sur la page pindad.com, la voiture de Maung est un véhicule tactique léger 4 sur 4. Sa fonction est celle d'un véhicule de soutien aux opérations de combat rapproche et à la mobilisation. La voiture Maung peut également être utilisée pour explorer tout terrain à une vitesse de 120 km par heure. La distance peut atteindre 800 km et offre une maniabilité agile et fiable. En tant que véhicule tactique, le Maung peut être équipé d'un support d'armes de 7,62 mm. En dehors de cela, il est équipé d'un tracker de navigation GPS et d'autres équipements. Il a également été déclaré que 70% des matières premières destinées à la voiture de Maung provenaient du pays. Jusqu'à présent, aucune décision officielle du président n'a été prise concernant l'interdiction d'utiliser des voitures importées et les dispositions relatives à l'utilisation des voitures Maung comme véhicule pour les ministres. Cependant, le secrétaire d'État Prasetyo Hadi a déclaré que les membres du cabinet utiliseraient les voitures officielles Maung fabriquées par Pindad SA Persero. Il a admis qu'aucune décision n'avait été prise quant aux responsables gouvernementaux qui utiliseraient la voiture officielle Maung. Selon lui, cela dépend aussi de la capacité de production. L'utilisation des produits nationaux doit d'abord être démontrée par des représentants de l'État. Ce mouvement est également lié aux économies budgétaires, car les voitures fabriquées dans le pays sont garanties comme étant beaucoup moins chères que les voitures importées et plus d'économiser le budget. Cette politique encourage également les industries nationales à se développer et à devenir des hôtes dans leur propre pays. Par conséquent, la tendance à utiliser des produits nationaux ne se limite pas aux véhicules, mais également à d'autres biens tels communication. Dans ce cas, l'Indonésie peut suivre l'exemple de la Corée du Sud, qui a su se développer pour devenir un nouveau pays industriel et dont les habitants sont fiers d'utiliser des produits nationaux. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 30 octobre 1910, Henri Dunant décède. Jean-Henri Dunant, également connu sous le nom de Henri Dunant, était un homme d'affaires et militant social suisse, également connu comme le père fondateur de la Croix-Rouge mondiale. Il est décédé le 30 octobre 1910. En 1901, Henri Dunant reçut le prix Nobel de la paix pour son rôle dans la fondation du mouvement international de la Croix-Rouge et le lancement du processus d'élaboration des conventions de Genève. Passons maintenant au prochain événement du 30 octobre 1945. Le général de brigade britannique Malabi, chef des forces alliées, était tué à Surabaya, déclenchant la bataille du 10 novembre 1945. Le brigadier général Malabi de l'armée britannique était tué lors d'une fusillade le 30 octobre 1945. Il commandait la 49e brigade de division indienne, composée d'environ 6 000 soldats déployés en Indonésie après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Leur mission était de désarmer les soldats japonais, de libérer les prisonniers de guerre japonais et de rendre à l'Indonésie son statut d'entente orientale néerlandaise sous l'administration civile des ententes néerlandaises NICA. La mort de Malabi a conduit le général de division E.C. Mansur, son successeur, à lancer un ultimatum aux forces indonésiennes en Surabaya le 9 novembre 1945, exigeant qu'elles rendent leurs âmes sans condition. Finalement, la bataille éclata le 10 novembre 1945 parce que la partie indonésienne ignora l'ultimatum. Chers auditeurs, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 30 octobre 1946, Journée nationale des finances en Indonésie. La Journée nationale des finances est célébrée pour commémorer la naissance de l'Uang République Indonesia, ou ORI, la première monnaie officielle utilisée en Indonésie, le 30 octobre 1946. Après l'indépendance, le président Sukarno a promulgué un décret autorisant la circulation de plusieurs monnaies. Cependant, le gouvernement a ressenti le besoin d'établir une monnaie nationale pour renforcer la souveraineté économique. ORI a ensuite changé son nom pour rupiah, une monnaie qui continue d'être utilisée aujourd'hui comme symbole de la souveraineté indonésienne. C'est le retour, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir. Memory you have.
Chers auditeurs, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, face aux défis mondiaux, Marine renforce la diplomatie indonésienne en matière de science, de recherche et d'innovation. L'Agence nationale de recherche et d'innovation, BRIN, a organisé un atelier intitulé « Augmenter le rôle et la contribution des résultats de la recherche de BRIN, y compris les politiques visant à renforcer la stratégie diplomatique scientifique de l'Indonésie ». Cet atelier vise à renforcer la diplomatie basée sur les résultats de la recherche en Indonésie ou diplomatie scientifique. C'est ce qu'a déclaré le député chargé de la politique de développement, Mego Pinandito, à l'auditorium Sumitro Joyadikusumo, Jakarta, lundi 28 octobre. Selon Mego, ce thème a été réalisé car il est étroitement lié au rôle de la recherche et de l'innovation dans le soutien au développement durable. Cette activité facilite la contribution des experts indonésiens en politique étrangère ainsi que les discussions pratiques entre la communauté BRIN pour formuler une contribution à la politique diplomatique étrangère indonésienne basée sur les résultats de la recherche scientifique et des politiques développées par BRIN. Mego expliquait qu'actuellement, l'Indonésie et le monde sont confrontés à diverses crises telles que le changement climatique, la pollution, l'environnement et la perte de biodiversité. Pour surmonter ces crises, la recherche et l'innovation jouent un rôle clé. Mego a également déclaré que la diplomatie scientifique, qui est un instrument important dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale, fournit une plateforme pour l'éducation et le développement des capacités mondiales, ainsi que pour la coopération dans l'utilisation de la technologie. Désormais, avec la communauté mondiale, nous chercherons des solutions aux différents défis mondiaux pour réaliser le développement durable. Lors du même événement, le directeur de renforcement des infrastructures et des partenariats de recherche et d'innovation de BRIN, Johannes Eka Prasetya Tanjung, a déclaré que la diplomatie scientifique permet à l'Indonésie d'agir en tant qu'agent de changement dans la coopération internationale. L'Indonésie veut non seulement être en marché, mais aussi un producteur de recherche capable de contribuer à l'innovation mondiale. Johannes expliquait que grâce à la diplomatie scientifique, l'Indonésie devrait être en mesure de surmonter divers défis, notamment la crise mondiale de l'eau à travers de la technologie basée sur l'énergie verte et une stratégie à long terme vers zéro émission nette en 2060. Johannes a ajouté que la stratégie de BRIN comprend la construction d'une infrastructure de recherche grâce à la collaboration entre le gouvernement et le gouvernement, G2G, les entreprises avec les entreprises B2B, les universités avec les universités U2U. Selon lui, BRIN s'engage à continuer à encourager la coopération internationale en matière de recherche et d'innovation. Plusieurs mesures ont été prises, notamment le renforcement des partenariats avec des organisations internationales telles que l'UNESCO, la CNUCED, la CSTD, le CERN et la IEA. La présidente de la région d'Europe occidentale, Union européenne et OTAN, agence de stratégie de politique étrangère du ministère des Affaires étrangères, Habsari Kaharjito, a déclaré dans sa présentation que l'Indonésie avait 5 priorités en matière de diplomatie scientifique avec les régions américaines et européennes. Il a expliqué que sur la base des premières études menées par le ministère des Affaires étrangères et l'Université Erlangga de Surabaya, les 5 priorités étaient l'agriculture et la foresterie, pêche et maritime, éducation, santé et pharmacie et énergie renouvelable. C'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Chers auditeurs, au milieu de l'agitation de Jakarta, il existe encore plusieurs endroits pour ceux d'entre vous qui souhaitent profiter du grand air et du plaisir de se promener. Dans la région de Jakarta du Sud, précisément à Jagakarsa, il y a un parc magnifique, confortable, frais et calme. Il s'appelle Parc Tabe Buya. Avant d'être revitalisé en parc, cette zone était à l'origine du marquage qui servait de captage d'eau de pluie afin de prévenir les inondations dans la région de Jagakarsa. Ce parc a été inauguré en 2011 et a commencé à être largement regardé par le public de Jakarta l'année suivante ou en 2012. Car à cette époque-là, un certain nombre de collections de plantes et d'arbres à fleurs commençaient à fleurir, dont l'arbre Tabe Buya qui fleurissait également. Ce développement a été initié directement par le gouvernement provincial du DKI Jakarta afin de répondre aux besoins d'espaces verts ouverts au public jusqu'à 30% de la superficie totale de la capitale, c'est-à-dire de la capitale Jakarta. Dans son utilisation, le parc Tabe Buya, qui s'étend sur une superficie de 9 626 m², est également dominé par une végétation variée, des arbres pour le verdissement, une rivière artificielle et une zone de piste de jogging. Comparé à d'autres types de plantes, le nombre de plantes Tabe Buya dans ce parc est presque dominant. En fait, cette plante est également utilisée comme clôture végétale lorsque les fleurs fleuriront. Elles donneront une nuance rose qui donnera une sensation différente à quiconque passe par ce jardin, à l'atmosphère qui ressemble à un jardin de sakura au Japon. Ces auditeurs, dans plusieurs zones de ce parc, il y a aussi de petits belvédères en bambou qui peuvent être utilisés pour se reposer ou simplement bavarder avec la famille et les amis. Pour créer l'impression d'un jardin naturel, le parc Tabebuya a été formé avec un contour de jardin vallonné, de sorte que le paysage ressemble à des petites collines remplies d'herbes vertes, ce qui permet à quiconque vient dans ce parc de se sentir chez lui ici pendant longtemps. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
So hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got. Since the very first day.
Serge de Ritter, c'était la chanson pop indonésienne. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Parlons l'indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, du ministère de l'éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo en français, à Labuan Bajo. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Ingin menjadi penyelam. Je répète, Ingin menjadi penyelam. Signifie « je veux être plongeur ». Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui « ingin menjadi penyelam ». Je répète « ingin menjadi penyelam ». En français, « je veux être plongeur ». Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Sejak kecil. Sejak kecil signifie depuis l'enfance. Menjadi. Menjadi signifie être. Penyelam. Penyelam signifie plongeur. Sejak kecil, saya ingin menjadi penyelam. Sejak kecil, saya ingin menjadi penyelam. Signifie « Depuis mon enfance, je voulais être plongeur. » Menyelam. Menyelam signifie « plonger ». Beruntung. Beruntung signifie « chanceux ». Bertemu. Bertemu signifie « rencontrer ». Et manta. Manta signifie « manta ». Dans la conversation, vous entendez « Sejak kecil, saya ingin menjadi penyelam. » Je répète « Sejak kecil, saya ingin menjadi penyelam. » Signifie « Depuis mon enfance, je voulais être plongeur. » Dans le contexte de la conversation, le mot « penyelam » je répète « penyelam » signifie « plongeur. » Dans cette expression, le mot « penyelam » qui désigne une personne qui travaille comme un plongeur est lié au mot plonger qui désigne l'activité dans l'eau. En autre exemple, allez écouter des exemples d'utilisation d'autres mots pour décrire des personnes occupant certains emplois. Penari. Penari signifie danseur. Penari menarikan tari danding dari Manggarai. Je répète, penari menarikan tari danding dari Manggarai. Signifie les danseurs dansent la danse danding de Manggarai. Pedagang. Pedagang, en français, le commerçant. Banyak pedagang di kawasan wisata. Banyak pedagang di kawasan wisata. Signifie il y a beaucoup de commerçants dans la zone touristique. L'une des destinations touristiques populaires du parc national de Komodo, la province de Nusa Tenggara de l'Est, est Mantapuang. À Mantapuang, les visiteurs peuvent plonger et rencontrer des mantas. Manta est une raie de l'espèce Manta birostri qui a la forme d'un cerf volant et possède une longue queue. Chers amis, voilà l'émission de Parlons l'Indonésien d'aujourd'hui, dont le sujet est « Ingin menjadi penyelam ».« Ingin menjadi penyelam », en français, « Je veux être plongeur ». J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Takdirmu menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku, kau pastikan bahagia, ku temani dirimu menari bersamaku, temani akhir waktu, jalani bersamaku, tak ada yang selamanya, tapi aku kan ada di setiap perjalanan cinta.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Chers auditeurs, cette fois, je vais vous présenter une chanson de l'Ouest de Java intitulée « Mawar Bodas ». Chers amis, la chanson « Mawar Bodas » a été composée par Uko Hendarto. Les paroles racontent l'histoire de quelqu'un qui se rend dans un autre village pour rencontrer l'idole de son cœur qui est comparé à mawar bodas, qui signifie rose blanche. La rose blanche symbolise son rêve. Même s'il avait parcouru un long chemin et était frappé par la pluie et la foudre, il s'en fichait tant qu'il pouvait rencontrer l'amour de son cœur. Mais sa lutte fut vaine, car il s'avéra que son amant avait déjà un autre amant. Mon cher Joëtar, voici la chanson de Java occidentale intitulée « Mawar Bodas » chantée par Deti Kurnia. Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez chez vous et suivez les règles de santé. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.